du Fils et du Saint-Esprit. Si j'étiquais tout à l'heure sur une phrase qui ne se trouve pas chez Saint-Luc, parce que cet évangile se trouve dans les trois évangélistes après synoptiques, c'est-à-dire qu'ils portent le même regard à peu près. Matthieu, Luc et Marc. Jean étant à part, étant beaucoup plus tardif. Alors, d'abord en préalable, je rappelle que, je vous l'ai déjà dit, pendant l'Avent, il n'y a rien, à presque rien dans le rite byzantin concernant le confessionnal. Donc là, c'est les dimanches ordinaires après Pentecôte. Ouais, c'est comme ça. On va essayer quand même d'en tirer profit spirituellement par rapport à la fête de Noël. Et donc, les évangélistes portent un regard qui est le même, avec quelques différences. Je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure. J'ai eu presque envie de prendre la version de saint Matthieu qui est plus intéressante. Mais bon, je me suis conformé par obéissance à l'ordo byzantin. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux de lire chez saint Matthieu. On est vers la fin du ministère du Seigneur. Il est dans sa montée vers Jérusalem. Il est en chemin. Et il y a un homme qui fait une démarche personnelle vers Jésus. Alors, cet homme, nous savons par saint Matthieu que c'est un jeune homme. Et c'est un notable. C'est quelqu'un de très riche. C'est un personnage important, mais qui est jeune. Il s'approche du Seigneur et saint Marc nous dit qu'il s'agenouille. Oui, c'est un très joli geste. Il s'agenouille devant le rabbi. Et il pose une question qui est une question absolument pertinente. C'est LA question. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est un beau langage juif, hérité de... Chez saint Matthieu, on dit, pour avoir... Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, chez saint Matthieu, il dit, qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter de la vie éternelle? C'est LA question de l'homme. Que la vie éternelle, c'est la communion de la vie divine. Vous avez entendu quand on chante le Trisagion, Saint immortel. Ça concerne le Saint-Esprit. C'est lui qui nous sauve de maman, c'est lui qui nous ressuscite. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre toujours en Dieu? Pour être dans le royaume des cieux. Extraordinairement bonne question. Cela nous indique d'abord que c'était une préoccupation chez les Juifs qui y croyaient. Mis à part les Sadducéens, qui ne croient pas dans la résurrection. Mais les Sadducéens sont minoritaires, bien qu'ils soient nombreux dans le Sanhédrin. Mais les Juifs croyaient dans la résurrection des morts. Mais c'est dans la Bible. Ils croyaient et ils espéraient la vie éternelle. Il faut toujours le rappeler, le souligner. Nous tenons ça d'Israël. Or, le Seigneur est en marche vers Jérusalem, c'est qu'il est en marche vers sa passion et sa mort. Et au fond, mais j'anticipe sur la fin, au fond, il va lui dire, venez voir. Mais lui-même est en marche vers sa mort. Au fond, il va lui dire, meurs. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. La première réponse de Jésus est assez surprenante, mais quand on a l'expérience spirituelle de l'Évangile, on n'est pas surpris. Seul Dieu est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Le Christ rapporte toujours tout à son Père, qui est la source unique. Toujours. Vous avez vu que les personnes divines sont une exactitude parfaite. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Chacune est d'une exactitude absolue. Et n'empiète jamais sur l'économie des deux autres. Le Christ rapporte tout à Dieu Père. Je ne suis rien. Je fais ce que mon Père m'a dit. Mais il y a autre chose que je voudrais vous dire, et ça ne m'est apparu que cette année. On découvre toujours des choses nouvelles dans l'Évangile. La bonté est un reflet de celle de Dieu. Toutes les formes de bonté sur terre, qu'il s'agisse des chrétiens, des athées, des juifs, des machins, des trucs. Toute la bonté sur terre est un reflet de la bonté de Dieu. C'est ça que l'Esprit veut dire au Seigneur. Il n'y a de bon que Dieu. On oublie souvent ça. Et puis, Le jeune homme veut en savoir plus. Alors, il ne se décourage pas d'abord, parce qu'au fond, la réponse du Seigneur est un petit peu rude. Mais vous voyez, il a l'humilité de ne pas se décourager. Le Seigneur le reprend un peu d'une certaine façon. Dans une des versions, je ne sais plus laquelle, le Seigneur pose une question pour en savoir plus. Qu'est-ce que je dois faire vraiment? Le Seigneur, il lui dit, mais tu as des commandements. Et ce saint Matthieu dit, lesquels? Intéressant. Hein? Il y avait, je crois, 625 commandements dans la loi. Je vous dis ça de tête. Hein?
Lesquels?
613. Voilà, c'est parfait. Lesquels? Et le Seigneur va répondre en citant le décanon, mais d'une façon incomplète et pas dans l'ordre. Le Seigneur n'est jamais littéral quand il cite l'écriture, parce qu'il compte pour lui, c'est l'esprit, c'est pas la lettre. Et il va citer une grande partie du commandement, curieusement, sauf les deux premiers, nommés les deux premiers, qui sont les plus importants et qui donnent, qui indiquent l'esprit de la loi. Mais il les cite. Tu ne tueras pas, tu ne vendras pas. C'est au fond tous les commandements qui concernent le prochain. La mise en pratique de l'amour du prochain. Et alors, le jeune homme va répondre quelque chose qui, pour nous, est incroyable. Tous les êtres humains, il dit, mais j'ai fait tout ça. Et j'ai fait tout ça dès ma jeunesse. Ça, c'est inouï. Mais quel homme sur terre peut dire, j'ai mis en pratique tous les commandements? Inouï. On se trouve devant quelqu'un qui est très très bien, qui est tout à fait remarquable. Mais le jeune homme, voilà, il veut plus. Il veut plus. Et il dit, que me manque-t-il encore? C'est que le Christ se trouve devant quelqu'un qui est tout à fait remarquable. Déjà accomplir le commandement pour un être humain, c'est surhumain. Mais pour un homme riche, quand on est riche, on a tout, on peut tout faire, on a tous les droits, on croise tous les droits. Tout est facile quand on est riche. Accomplir les commandements quand on est riche et puissant, c'est héroïque. Et il se passe quelque chose qu'on n'a que chez saint Marc, qui est très très beau. Le Christ est tellement étonné. Et saint Marc dit, Jésus ayant fixé son regard sur lui, les mains. Regard de Dieu, qui est un regard amoureux. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà quand même un être humain qui est une créature qui est sortie des mains de Dieu, sortie des mains du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus le regarda et l'aima. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. C'est peut-être, je crois, je n'ai pas vérifié, la seule fois dans l'Évangile où on lit cette phrase, il l'aima. Le regard de Dieu sur nous, un regard d'amour. Ce jeune homme est proche de la perfection. Vous avez remarqué que le Christ ne lui demande rien. Il n'ajoute rien de plus. Mais il veut plus. Il veut atteindre la perfection tout de suite. Je veux être saint tout de suite. La réponse du Seigneur tombe comme un couperet. Si tu veux tout tout de suite, tu perds tout tout de suite. Tu abandonnes tout. Vous savez, souvent dans la vie, nous sommes comme le jeune homme riche. On veut tout tout de suite quand on est sous l'influence, quand on est dans la présence de la grâce d'une façon intense. On voudrait aboutir tout de suite. Mais vends tes biens, meurs à tes biens, vends tout, donne-le aux pauvres et suis-moi. Abandonne tous tes biens, donne-les et tu acquiers de la richesse dans le ciel. Tu deviens riche pour Dieu et suis-moi. Je vais revenir sur suis-moi. Et le jeune homme est écrasé par la parole du Christ. Écrasé. Il s'en va tristement. C'est trop dur pour lui. Il ne s'est pas rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire. Mais le Seigneur ne lui avait pas demandé parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas le faire. Nous sommes, nous, très souvent comme le jeune homme riche. Quand la grâce nous visite, on a un tel enthousiasme, on voudrait aboutir tout de suite, mais en fait, nous ne le pouvons pas. Il nous faut du temps. Il nous faut faire du chemin. Nous sommes tous un petit peu de ce chemin riche. À un moment donné de notre vie, nous allons tous, ou nous serons tous comme cela. Et nous devons apprendre à être économes vis-à-vis de nous-mêmes, pas trop absolus. Pas tout de suite. Souvenons-nous de cette parole du Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Il n'y a que quelques personnes dans l'humanité qui ont été capables de le faire. Saint Antoine de Gite. Vous voyez, il a trois. Il a entendu une phrase à l'église. Il était orphelin, ses enfants étaient morts. C'était très riche, ses parents, c'est en Égypte, 3e siècle. Il a dit, cette phrase est pour moi. Il a mis en pratique tout de suite, il a tout vendu. Il a casé sa sœur chez quelqu'un. Il a tout donné au bon, il est parti dans le désert. Mais ce sont des héros. Ces gens-là sont des modèles. Il y en a, Saint-Martin était, on peut dire comme ça. Mais il n'était pas d'une famille très riche. Mais Antoine était d'une famille très riche et très puissante. Ces gens-là sont des héros. Et je voudrais souligner une chose, c'est qu'ils y étaient appelés par Dieu. À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Mais il ne nous appelle pas tous à la même chose. Non, pas tous le même chemin. Est-ce que Dieu m'appelle à faire cela? Alors, s'il m'appelle à faire cela, il faut que j'y aille. Je vais le faire, ça va être dur, mais je vais me battre. Mais vous avez vu, le Christ ne l'a pas appelé à faire cela. Faisons attention à nous-mêmes. On ne peut pas faire l'économie du temps. On ne peut pas faire l'économie de la souffrance. On ne peut pas faire l'économie de la mort. La conclusion du Seigneur, la morale de l'histoire, elle est très rude, elle est très difficile. Mais d'une certaine façon, elle confirme ce que je viens de dire. Si on veut l'unique richesse qui est Dieu, que Dieu est la source de toute richesse, il n'est pas seulement riche, il est la source de toute richesse. Si l'on veut l'unique richesse qui est Dieu, il faut être capable de perdre toutes les autres. Il faut relativiser tout ce qui n'est pas lui, Dieu. Il faut préférer la source des biens aux biens eux-mêmes. Et le Seigneur, en fait, vient par l'expérience spirituelle d'apprendre au jeune homme riche les deux premiers commandements qu'il avait omis à dessein. Et les deux premiers commandements, c'était « Tu aimeras Dieu au-dessus de tout, plus que tout, et ton prochain comme toi-même. » C'était l'esprit des commandements. Mais aimer Dieu totalement, plus que tout, c'est donner tout aussi. Et il lui révèle, au fond, quels sont les deux premiers commandements qui ont été oubliés. Les disciples sont écrasés. Ils se disent, si un homme comme ça ne peut pas entrer dans le monde, mais qui va entrer? Nous, on n'arrive pas à s'achever, Seigneur. Ils sont écrasés. Et le Seigneur va compléter ce qu'il vient de dire, parce qu'il vient de dire une chose qui est vraiment très difficile. Il dit, c'est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est une phrase quand même très difficile. Mais vous avez remarqué qu'il n'a pas dit que c'était impossible. Il n'a pas dit que c'est impossible pour un riche. Et il dit ceci après. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit, pour les hommes, c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez atteindre la perfection, mais pas seulement par vos propres forces. Vous ne pouvez atteindre la perfection que avec l'aide de Dieu. Votre effort doit être uni à la grâce. Je voulais conclure, j'ai oublié un mot important qui vient de me revenir à l'esprit. Le Christ est en marche vers sa mort. Et ce qu'il va dire au jeune homme, il va dire, tu veux être parfait, va, vends tout et suis-moi. C'est suis-moi dans la mort.
Tu peux le faire. Les apôtres eux-mêmes se sont enfuis.
Viens à me suivre. Suis-moi. Si tu peux faire ça, tu peux être vraiment, tu peux faire partie de mes disciples. Ouais, tu peux forcer la main à Dieu.
Mais il ne pouvait pas le faire. C'était trop difficile.
Je reviens simplement à ma conclusion. Oui, on peut devenir parfait, mais on ne peut pas le faire seulement par nos propres forces. Même en étant très bien, même en accomplissant scrupuleusement les commandements, le dernier degré de la sainteté, la dernière marche, on ne peut la franchir qu'avec l'aide de Dieu, parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu.
Et à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.